de quoi tu parles?
Et je cause aussi.
Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire.
Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec.
Résilience de la pizza.
Et je cause français. C'est un plaisir.
Et de quoi tu
Tout d'abord, merci de témoigner à visage découvert. On va revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, les petits soucis. Au mariage de votre sœur, vous avez percuté sa voiture, accident au cours duquel les mariés sont décédés, ainsi que vos propres enfants. Vous avez été amputé des deux jambes et pendant votre séjour à l'hôpital, un infirmier psychopathe vous a violé et torturé avant de s'enfuir. Il ne sera jamais jugé. Ensuite, votre maison, qui n'était plus assurée à cause de la faillite du courtier en assurance, a entièrement brûlé dans l'incendie déclenché lors du suicide par immolation de votre épouse, désespérée par tous ses ennuis, si je puis dire. Cela étant, vous avez su, j'ai envie de dire, rebondir. Vous avez profité de tout le temps libre soudain dégagé en vous formant sur vos propres économies, car bien sûr vous avez été licencié, vous avez perdu votre emploi, et l'administration a perdu vos dossiers aussi, vos dossiers d'aide à cause d'un bug, car un escroc homonyme a usurpé votre identité et accumulé des dettes à votre nom. Et à la suite de cette formation, que vous avez réussi, vous êtes devenu coach en développement personnel bio-énergéticien. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez réussi à accomplir cette prouesse de héros du quotidien? Si je puis me permettre, quel est votre secret fraîcheur?
C'est parce que je suis résilient. J'avais beaucoup de résilience en moi et j'ai travaillé ma résilience. Alors j'ai fait grossir ma résilience. Et maintenant, j'ai rebondi.
Rebondir, certes, mais vous me disiez en préparant l'interview, rebondir, d'accord, mais il s'agit d'aller plus loin, c'est-à-dire de rebondir plus haut, et ce n'est pas le fauteuil roulant qui va m'arrêter.
Ah ben non, alors, maintenant je vais mettre mieux qu'avant. En fait, j'ai eu de la chance d'avoir tous ces ennuis, mais c'est parce que je suis résilient, et j'ai de la résilience.
Mais de quoi tu parles?
Je ne sais pas vous, mais moi j'en peux plus d'entendre le mot résilience. Qu'il faut être résilient, que tout doit être résilient, que ça va bien aller car on a de la résilience en soi, qu'on a de la chance même d'être résilient. Cette injonction supplémentaire totalement stupide, accompagnée par le détournement du mot et son exploitation à outrance, est devenue insupportable. Au départ, la résilience, c'est un truc psychologique posé comme ça, là, par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Le psychiatre Serge Tisseron résume le truc ainsi. Le mot de résilience est largement utilisé aujourd'hui dans tous les domaines. En psychologie, il désigne la capacité de surmonter un traumatisme et ou de continuer à se construire dans un environnement défavorable. Les déterminants et les facteurs de résilience peuvent être de trois types: individuels, familiaux, sociaux. Parmi les facteurs individuels, on trouvera la génétique, l'autonomie, la faculté d'adaptation, la charge en sérotonine, la sublimation via le théâtre, l'écriture ou les causes humanitaires. Donc, la résilience, c'est un truc de personnes victimes qui ont des gros soucis et qui vont arriver à s'en remettre. Mais voilà, la résilience maintenant, c'est la merde. Tout est devenu résilient. La résilience, qui est un mot qui s'applique aussi à la capacité d'un métal à encaisser un choc, est servie à toutes les sauces. En mélangeant le psychologique et le physique, le concret et l'abstrait, l'être humain et n'importe quelle salade. Je me suis amusé à chercher sur le web et j'ai trouvé un paquet de trucs résilients. C'est dingue, il y en a partout. La nourriture est résiliente, l'agriculture, l'économie est résiliente, les fonds pour l'initiative économique sont résilients, l'argent, les boutiques de fringues sont résilientes, l'entreprise, les leaders d'entreprise. On ne sait pas si les salariés en burn-out ou les suicidés sont résilients, mais leurs patrons peuvent l'être, en tout cas, on est sauvés. est résilient le socialisme municipal. On trouve aussi sur le web des perroquets résilients, des poissons, des récifs de coraux, et croyez-moi, même une brouette avec une bande résiliente périphérique en liège maçonné. Je ne sais même pas ce que c'est, mais bon, c'est résilient. En novembre 2020, dans un magazine professionnel, le patron d'une chaîne de pizzeria a même affirmé que, je cite, « la pizza est restée une thématique résiliente pendant le confinement ». Après, il parle de chiffres et de tendances et il ne nous dit pas si la résilience de la pizza est due à la psychologie teigneuse des anchois ou à l'inertie face aux coups que peut endurer une boule de mozzarella. J'ai vu une vidéo de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais où des producteurs laitiers, de ceux qui ne se sont pas encore suicidés car c'est une pratique courante chez eux à cause des cours du lait, expliquent que, comme pour faire plaisir et employer le mot qu'on leur a dit d'employer sans avoir l'air de le comprendre, sauf leur respect, ils disent qu'ils allaient mener maintenant leur exploitation de manière résiliente, et surtout avec des crédits et du matériel et des méthodes plus productives, parce que jusque-là, sans doute, bossaient-ils comme des branques. Et je vous passe les villes résilientes qu'essaie de promouvoir Veolia, la stratégie de résilience territoriale de la Gironde, la notion de résilience préventive appliquée à tout et n'importe quoi. Ah oui, la résilience préventive. La résilience préventive, c'est quand tu n'en as pas encore pris plein la gueule, mais tu sais que ça peut arriver, alors tu te reconstruis d'avance avant d'avoir été pété de partout. Enfin, c'est ça l'idée. Avec la résilience préventive, tu devrais en théorie pouvoir encaisser le piano qui va te tomber sur la gueule, être capable de ramener le piano chez toi, et tant qu'à faire, de l'accorder et de nous jouer une petite sonate. Bon, sauf si t'es pas trop naze et t'avais bien prévu le bon piano qu'allait te tomber sur la gueule. La résilience préventive, ça doit être un talent particulier aussi, un truc de parano ou d'inconscient. Moi, ça m'a fait penser aux vil coyotes du dessin animé qui essaient d'attraper sans cesse l'oiseau bip bip et qui s'explose la tronche à chaque fois, et à chaque fois qui repart comme un 40, à chaque fois, il est résilient, le vil coyote. Dans le magazine Uzbek et Rika, en novembre 2020, Caroline Castin, qui est responsable sensibilisation et communication d'intérêt général à l'Agence française de développement, écrit dans un très bel article titré « Faut-il résilier la résilience ?», elle écrit ceci. Le reconfinement a vu refleurir un mot qui avait déjà bien creusé son sillon pendant la première vague, la résilience. Le mot n'est pas nouveau, ni le concept. Il a déjà tranquillement pris ses aises dans le vocabulaire contemporain, tout particulièrement dès qu'il est question de développement durable. Il est bien joli, ce mot de résilience. Il parle de survie, de dépassement, d'élévation. Beaucoup de noblesse, a priori. Mais il est également opportuniste, parce qu'il dit une chose et son contraire. D'un côté, il sous-entend des qualités préexistantes à un événement traumatique, parce que l'on est résilient, on traverse mieux l'épreuve. Et en même temps, le mot « résilient » suggère l'exact inverse, à savoir une notion de volonté que l'on pourrait convoquer a posteriori après le choc, « soyons résilients ». C'est l'injonction paradoxale par excellence. Or, la société actuelle n'a de cesse que de vouloir nous construire un futur plus résilient. Face à cette ambiguïté, on est en droit de se demander ce que ce futur plus résilient peut bien vouloir dire. Et Caroline Castin continue. Il y a quelque chose de dérangeant dans l'ambivalence de la résilience. Le mot joue pour les deux camps, c'est bien pratique, et éminemment politique, mais sans l'annoncer. La résilience renvoie le citoyen, l'individu à sa responsabilité personnelle. Le changement climatique nous emmène droit dans le mur. En attendant que les gouvernants aient des politiques vraiment courageuses, c'est à toi, citoyen, de te montrer résilient, de couper l'eau en te brossant les dents et de manger bio. En tant que femme, tu as été agressée sexuellement. En attendant que la société patriarcale change, c'est à toi, victime, d'être résiliente et de dépasser ça. Tu n'as pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, en attendant que la société soit plus égalitaire. Regarde, d'autres s'en sont sortis, donc c'est à toi de te donner les moyens de réussir, même quand tu n'as pas eu les mêmes chances que les autres. Ce renvoi au sujet et à sa résilience, soi-disant dans un souci de lui redonner sa puissance de sujet, lui donne surtout la solitude de la responsabilité. Cette injonction dépolitise en séparant l'individu de la responsabilité collective. Non contente d'esseler l'individu, la résilience lui enjoint de porter de beaux habits et de faire bonne figure. Et Caroline Castin, dans son très long article, cite un court-métrage qui a remporté le prix du jury au festival FREM 2020, qui est intitulé « Ce qui ne nous tue pas ». C'est un court-métrage de la vidéaste Alexandra Mignin, Celle-ci récite un texte absolument magnifique, qui est de sa composition et qu'on voudrait citer intégralement ici tant il est juste. Texte qui explique pourquoi il faut arrêter de nous gonfler sévèrement avec la résilience et pourquoi cette histoire de résilience est totalement perverse. Ça commence comme ça.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est faux. Quand on survit à un accident de voiture, on n'en ressort pas plus fort. On en ressort souvent cassé, blessé, amputé d'un membre, handicapé. Parfois c'est irréversible et parfois il faut se rééduquer pour espérer revenir au point de départ d'avant l'accident. Alors pourquoi ce serait différent pour les blessures psychologiques ? Ce qui ne nous tue pas nous rend fragiles, nous détruit, nous change complètement, nous fait perdre du temps, de l'énergie, souvent des amis, nous prive de plusieurs années de bonheur parce qu'on est trop occupé à se reconstruire pour avancer. Et parfois, ce qui ne nous tue pas nous laisse exactement comme avant. Parce que si c'est dans ta personnalité d'encaisser les chocs plus facilement qu'un autre, personne n'a le droit de te culpabiliser de ne pas être impacté.
Et elle dit ça aussi.
Et si tu arrives à t'en sortir, et qu'en plus de ça, tu arrives à le faire sans faire chier trop de monde avec tes problèmes, alors tu obtiens le badge de la résilience. Félicitations.
Michel Mancio, fameux médecin pédiatre, professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique, membre du comité d'experts de l'OMS en santé de la famille, qui est décédé en 2014, avait soupçonné le problème du détournement de la notion de résilience. En 2001, dans une revue qui s'appelle Études, dans un article intitulé « La résilience, un regard qui fait vivre ». Il écrit entre autres « Désormais à la mode, le concept de résilience pourrait souffrir de se voir mis en avant sans assez de capacité de discernement, de finesse clinique. Une telle confusion ne peut que nuire à l'accueil de la résilience en tant que progrès dans les relations professionnelles et personnelles. D'autres risques plus sérieux sont liés au possible détournement, voire à la récupération de la résilience par les professionnels. Ainsi, parce qu'un enfant, un jeune, une famille font preuve de résilience, on va considérer qu'ils sont désormais capables de se débrouiller par leurs propres moyens. Le risque de désengagement des pouvoirs publics est du même ordre, puisque certains se tirent d'affaire, par eux-mêmes, point n'est besoin de les aider. Quant aux autres, ce sont des incapables ou des paresseux. De même, la société peut être tentée de porter un tel jugement dépréciatif sur ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir. Et donc de se satisfaire d'un régime à plusieurs niveaux de compétences et de compétitivité, au mépris du respect de la différence et au détriment d'une politique, gouvernementale et sociale, de solidarité. L'évolution actuelle de nos sociétés est là pour montrer que ces risques sont bien réels. Il a écrit ça en 2001, 20 ans après, on y est totalement, et on nous bourre le mou avec la résilience.
Lorsqu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de force. Célèbre citation d'Oprah Winfrey, une star de la télévision américaine, chef d'entreprise, philanthrope et productrice, qui a eu une enfance pauvre dans l'état rural du Mississippi, où elle a également été violée. La résilience et la force que cela implique ne s'apprennent pas dans un livre ou à l'école. On les acquiert par une pratique continuelle dans les combats de la vie quotidienne. Au début de cette formation, vous avez identifié votre niveau de résilience dans une situation donnée. Nous avons alors parlé du stress et de la capacité d'adaptation. Nous avons évoqué la reconnaissance d'un mode d'attente de résilience qui pourrait atteindre un seuil plus élevé dans l'épreuve. Rappelez-vous, nous avons comparé une situation difficile à un événement sportif. Vous le préparez avant, puis vous l'étudiez une fois qu'il est terminé. Votre préparation doit être réalisée pendant une période calme. Quand le niveau de stress est bas, il est facile d'augmenter le seuil de résilience face au refus, en apprenant une nouvelle discipline, en faisant face aux situations difficiles ou en maintenant votre langage intérieur positif et en gérant votre énergie. À l'aide des fichiers d'exercice, je vous guide dans chaque stratégie. Maintenant, c'est à vous de travailler.
Car maintenant, il y a de ces saletés de coach, de gna 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 en développement personnel qui te vendent de la formation en résilience.
Comme vous, je suis encore en train d'apprendre ces stratégies. Augmenter son seuil de résilience est un travail continu et l'entraînement doit se faire sur le terrain. Continuez à travailler et vous serez sûr de devenir plus résilient.
Et même des stages de kintsugi. Le kintsugi, c'est un art millénaire japonais qui consiste à réparer des céramiques cassées avec des feuilles d'or. Au final, l'objet est plus beau qu'auparavant et porte les cicatrices de son histoire qui sont ainsi sublimées. Il y a toute une philosophie et une esthétique avec ça. Le kintsugi, c'est accepter les aléas de la vie et l'empreinte du temps, les intégrer à son identité. C'est pas que du service après-vente de luxe. Mais le kintsugi, pour ces vendeurs de bullshit, en développement personnel et en amélioration de productivité et d'efficacité pour les futurs cadres en burn-out, c'est l'idéal. Tu vas faire du kintsugi et comme ça, t'es même mieux qu'avant. Finalement, t'as eu du bol en céramique cassée, bien sûr. T'as eu du bol d'avoir été fracassé et même tu te prépares à être fracassé. Mais jamais on ne remettra en cause ce qui va te fracasser la tête.
Et je vous rappelle que pour faire pousser une fleur, il faut autant de boue que d'eau. Mais il y a des gens, ils veulent que de l'eau. La boue, oh, c'est sale. C'est sale, je veux pas. C'est comme le sable, ça rentre partout, j'aime pas. Ah ouais, bah va pas sur la plage alors, va pas te baigner, quoi. C'est ce qu'on appelle la stratégie kintsugi. Bon, on revient pas dessus, tout le monde la connaît, on va passer rapidement. Levez la main ceux qui connaissent pas. Ah, quand même, on va réviser rapidement alors. Donc, il y avait un shogun au Japon. Il était là, chez lui et tout, il pète un vase comme ça. Ah, mince, tu vois, c'était à sa femme. Donc, il se dit techniquement, comment on va faire pour que... Donc, il l'envoie réparer, les mecs mettent des agrafes et tout. Elle arrive, elle dit non, c'est... Recommande le même sur Amazon, si tu veux, mais le répare pas, quoi. Et puis lui, il s'est dit, en fait, c'est de là qu'il s'est dit, en fait, si on le réparait, mais avec de l'or, avec des matériaux nobles, et qu'en fait, on gardait ces objets cassés, et que tout le monde sait qu'il est cassé, mais qu'il est passé dans les mains d'experts, avec de l'or, etc., et qu'ils l'ont rendu en mode kintsugi. Comment on peut faire, nous, avec ça ? Faire de la fêlure une beauté. Et donc, si tu ne comprends pas le défi qu'on te propose, tu le refuses. Et là, kintsugi, là, zéro. Bol cassé. Bol cassé, kintsugi. Kintsugi, bol cassé. Divorce ou possibilité ou recherche d'un nouveau point d'équilibre dans ta vie. Kintsugi, qu'est-ce que tu fais ? Je suis à la recherche d'un nouveau point d'équilibre dans ma vie. Un point, une posture plus agréable. L'autre était agréable, mais j'en cherche une encore plus agréable. Ok, là, c'est pas pareil.
Réserve vite ta place pour le prochain rendez-vous des membres du programme Booster d'Excellence et prépare-toi à rejoindre la tribu des plieurs de game.
Bref, on s'énerve, c'est plus très rigolo ce podcast, mais voilà, par pitié, ne nous parlez plus de résilience à tout bout de champ, car c'est pas beau ce qu'il y a derrière toute cette bonne volonté dégoulinante et impérative. À la fin de son film, que vous devriez vraiment aller voir, ça dure 6 minutes, mais c'est une petite pépite, à la fin de son film, Alexandra Mignien dit ceci.
Ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts. Mais une chose est sûre, ce qui ne nous tue pas ne nous définit pas.
Voilà, on n'en peut plus de l'excès de résilience, voyez-vous. Et même le pauvre Boris Cyrulnik, on espère qu'il va s'en remettre.
Mais de quoi tu parles ?
Bon allez, la prochaine fois, ce podcast sur les mots sera plus léger, c'est promis. On parlera d'une certaine Madame Michu.